Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dezinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour Damien.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons Gilles-Emmanuel Truta, président directeur général d'Audio. Bonjour Gilles-Emmanuel.
Bonjour.
Alors Gilles-Emmanuel, vous avez un master en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne, mais aussi un MBA à HEC de Montréal. Alors vous commencez votre carrière dans les marchés financiers internationaux chez Merrill Lynch, puis chez UBS ou encore EFG. En 2005, vous fondez PBS Private Bank Switzerland, j'espère que je le prononce bien, et vous êtes également fondateur et CEO de Capital System Investment, une société d'investissement spécialisée dans la dette privée. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler de la maison Audio, dont vous êtes le PDG depuis un an. Alors, avant de nous présenter en détail cette belle maison d'orfèvrerie, un mot sur votre parcours professionnel. Comment on passe des marchés financiers à ce que vous faites aujourd'hui au secteur de l'orfèvrerie?
Ben, en fait, moi, j'ai fait de la banque d'affaires et de l'investissement depuis le début de ma carrière. Et j'ai eu l'occasion d'investir dans une holding qui détenait Audio. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Audio. Mais pour revenir un peu plus en arrière, dans mon parcours précédent, après HEC Montréal, j'ai travaillé à la Banque du Louvre, qui appartenait à la famille Tétinger. Et dans le groupe Tétinger, à l'époque, il y avait un pôle luxe avec Baccarat, Audio, Annick Goutal, Gien, Havilland, tout un tas de jolies marques comme ça. Et donc, je connaissais déjà Audio depuis très longtemps.
D'accord, c'est comme ça que l'intérêt est né. Alors, on rappelle aux auditeurs, la maison Audio, c'est l'une des plus anciennes maisons d'orfèvrerie françaises. Elle a été fondée en 1690 à Paris. Elle s'est fait connaître par son savoir-faire unique dans le travail des métaux précieux, c'est ça, notamment l'or, c'est ça, l'argent, je ne me trompe pas.
L'argent et l'or, absolument. Et le vermeil, qui est la spécialité de la maison.
Alors aujourd'hui, Audio en quelques chiffres. En 2024, le chiffre d'affaires s'élève à plus d'un million d'euros. Des chiffres en pleine croissance, il me semble.
Alors, c'est une belle endormie. C'est-à-dire que c'est une société qui fait quasiment plus de chiffre d'affaires. Donc, je suis arrivé là pour justement relancer cette entreprise qui a des clients tout à fait prestigieux dans le monde entier, mais qui ne produit très peu, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis 25 ans dans l'outil de production. Et donc, aujourd'hui, on investit beaucoup d'argent dans l'atelier qui est à Brétigny-sur-Orge pour avoir une production qui permet de satisfaire les clients. C'est comme ça que le chiffre d'affaires double entre 2024 et 2025, et on espère qu'il va encore doubler chaque année pendant quelques années.
Alors, pour comprendre un peu mieux ce que vous faites, Guillaume Dezinel a des questions pour vous.
Alors, Gilles-Emmanuel, Audio a servi Napoléon, les tsars, les vice-rois. Comment repositionner une telle légende dans le luxe contemporain?
Alors, en fait, on a toujours les mêmes clients. Aujourd'hui, les clients, c'est des familles royales, c'est des gouvernements, des oligarques, des multimillionnaires, tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux phénomènes intéressants. C'est d'abord, il y a un retour des arts de la table depuis le Covid, puisque les gens ont redécouvert leur intérieur. D'ailleurs, Hermès a annoncé hier qu'il rachetait une société dans les arts de la table. Et deuxièmement, il y a de plus en plus de gens qui sont millionnaires et multimillionnaires. Il y en a eu 1000 par jour aux États-Unis en 2020. Ce qui est tout à fait considérable. Et ce sont nos clients potentiels.
Vous êtes labellisé entreprise du patrimoine vivant. Quelle responsabilité cela vous donne-t-il dans la formation des artisans?
Oui, alors en fait, c'est très important ce que vous dites parce que Audio possède le savoir-faire. Donc c'est un savoir-faire français unique qui est en train de disparaître un peu partout, qui a disparu dans beaucoup de pays. Et en fait, chez Audio, on a encore ce savoir-faire parce qu'il y a encore des écoles en France qui forment des gens, qui sont compétents. Alors nous, c'est un tout petit atelier, il y a 12 personnes. Mais donc on n'emploie pas de gens qui sortent de l'école, on emploie des gens qui sont un peu plus qualifiés, mais on trouve encore ce savoir-faire en France. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Quelle serait, selon vous, la version contemporaine d'un objet de pouvoir audio aujourd'hui pour un CEO, une ambassadrice ou un chef d'État moderne?
Non, mais chez Audio, on a fait l'épée du sacre de Napoléon. Et donc, on peut en faire d'autres, hein, parce qu'il y a encore des familles royales et encore des
sacres. Pour un CEO,
sacres,
une ambassadrice voilà. ou un chef d'État moderne, je ne sais pas, mais...
Ce ne sera peut-être pas une épée, mais un sceptre.
Alors, Damien, vous avez aussi des questions pour notre invité.
Oui, bonjour, Gilles-Emmanuel. J'ai cru comprendre qu'en plus, c'est une société cotée.
Oui, alors absolument. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on a investi en dette privée dans une société cotée en bourse qui s'appelait Well à l'époque. Il y avait tout un tas de choses. Et puis, bon, il se trouve que quand on fait de la dette privée, il faut qu'on soit remboursé. Bon, là, il se trouve qu'on n'a pas été remboursé. Donc, dans ces cas-là, nous, on arrive avec nos gros sabots et on fait le ménage. Donc, ce qu'on a fait, donc on a cédé tous les actifs, on a payé toutes les dettes et j'ai gardé que la pépite qui était Audio. Et donc, on a changé le nom de la société en Audio. C'était Well avant, ça s'appelle Audio, et c'est coté en bourse, effectivement.
Donc, ah, donc la marque Audio était dans cette structure
dans cette holding,
cotée.
Dans cette holding cotée.
C'est ça, qui n'avait voilà. plus trop d'activité
ou... Non, qui avait une activité,
donc,
mais...
En fait, vous avez restructuré,
bon,
voilà, c'est
on
ça
on a restructuré,
c'est...
exactement. On d'accord, a passé donc... un an et demi à faire ça.
Alors, d'accord. Donc là, vous venez de à peu près terminer sur restructuration pour donner cet avenir à cette marque.
Tout à fait, ah, tout
génial.
À fait.
Oui, oui. Donc là, aujourd'hui, par contre, le flottant est très petit. Alors, je ne sais pas si c'est 6% ou 24%, je ne sais pas si...
Non, alors en fait, y a quand même pas mal de petits porteurs. On pense qu'il y a entre 500 et 1000 petits porteurs. On ne sait pas trop, ce qui est bien. Et qui correspond à 6% du capital.
C'est ça.
Mais derrière, nous, on a fait rentrer des investisseurs qui sont aussi, a priori, du flottant, sauf qu'ils viennent de rentrer, donc ils ne vont pas sortir demain. Donc, on les a mis un peu à part dans la rubrique investisseurs. Mais c'est aussi du flottant. Donc, finalement, avec mon fonds et moi-même, on contrôle à peu près 50%. Et puis, le reste, c'est 50%.
Alors, pour se donner les moyens d'une nouvelle aventure boursière et aussi de la marque... Bon, j'ai vu qu'il y avait principalement des grosses pièces, donc vous allez plutôt travailler sur une gamme de plus petites pièces pour, voilà, pour faire grandir bah, l'offre ou ce
alors,
genre de choses, ou rester sur quelque chose de très tradit.
Aujourd'hui, on vend surtout des couverts. C'est 70% du chiffre d'affaires.
D'accord.
Des couverts en argent massif et en vermeil. Okay, donc une fourchette en vermeil de la gamme Demidoff, du prince Demidoff, qui est né à Saint-Pétersbourg et mort à Paris en 1870, ça coûte 1100 euros. Donc, vous n'achetez pas une fourchette toute seule, vous en achetez en général 6 ou 12, et puis vous n'achetez pas que des fourchettes, vous achetez aussi des couteaux et des cuillères. Donc, c'est quand même un budget. À côté de ça, on a ce qu'on appelle des pièces de forme, qui sont des pièces qui ne servent à rien, qui sont juste belles, des coupes que vous mettez sur une table ou des choses comme ça. Et on veut développer ça aussi. Donc, c'est des pièces qui valent entre 30, 40, 50 000, jusqu'à 200 000 euros à peu près, ou 300. Par exemple, vous avez la lampe Biennet que vous trouvez sur le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Bon, ça, c'est une lampe, mais il y a quand même 600 pièces dedans. Donc, c'est aussi un budget. Mais on veut développer ça parce qu'il y a une grosse demande pour ça. C'est des pièces qui sont quelquefois dans des musées, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, au Met à New York, au Louvre, et qu'on nous demande de reproduire soit à l'identique, soit personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. Ça fait partie de la décoration. Et puis après, comme vous l'avez très justement dit, dans la décoration, il y a des plus petites pièces. Alors là, on a un bestiaire, on a des timbales de naissance ou de baptême. Alors, il n'y a plus de baptême, mais enfin, on donne des timbales encore. Et ça, c'est un accès à la marque, parce qu'une pièce du bestiaire, un petit animal, ça vaut entre 500 et 1000 euros. Une timbale, ça vaut entre 1000 et 3000. Alors certes, c'est un budget, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter ça. Et ça, on développera ça quand on pourra produire. Parce qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez. Donc, on doit absolument, comme je disais en début d'entretien, investir dans la production pour pouvoir répondre à la demande.
D'accord. Donc là, après, c'est la recherche d'artisans, puisque quand vous étiez sur un chiffre d'affaires très bas, vous devez remonter, trouver donc des ouvriers, artisans qualifiés pour remettre une superbe au catalogue.
En fait, on doit doubler la force de travail, parce qu'aujourd'hui, on a des goulots d'étranglement, parce qu'il suffit qu'on ait on n'avait qu'un polisseur. Là, maintenant, on en a deux. Mais quand on a un polisseur, soit s'il part en vacances ou s'il tombe malade, parce que c'est quand même des métiers physiques, hein, on est dans la métallurgie, donc il peut y avoir des arrêts de travail, ben là, il n'y a plus de polissage. Hein. Et donc, toute la production s'arrête. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, effectivement. Mais c'est compliqué de recruter, parce qu'un artisan... Les 6 premiers mois, au bout de 6 mois, on sait s'il va rester ou pas. Et il faut encore 6 mois pour qu'il soit totalement autonome. Donc, ça prend un peu de temps.
D'accord. Est-ce que vous allez recourir à des services de marketing pour redévelopper la marque à travers le monde ou ça reste très confidentiel aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, non, parce que ce serait de l'argent mal employé, puisque ça ne sert à rien de faire du marketing, puisqu'on ne peut pas produire. Il faut déjà qu'on serve nos clients actuels comme il faut, parce qu'aujourd'hui, on a des délais qui sont très longs, qui sont entre 6 et 12 mois, et un délai normal devrait être de 3-4 mois. Donc si vous venez me commander 1500 pièces d'orfèvrerie, comme on a eu une très belle commande d'Arabie Saoudite il y a 2 ans, on a mis presque 2 ans à la faire, ce qui est beaucoup trop long.
Et le digital dans tout ça, parce qu'on l'a dit, c'est très artisanat d'exception, mais est-ce que vous pensez aussi à intégrer, pourquoi pas, des machines modernes avec des éléments digitaux qui pourraient justement régler le problème de la production ?
Alors là, on est dans l'histoire. Hein. Donc, l'atelier, c'est l'atelier du 19e et du 20e siècle. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, dans ce qu'on fait pour augmenter la productivité, effectivement, on a acheté une machine de soudure laser. Ce qui nous permet de gagner du temps. Mais ça reste très marginal. En revanche, le digital est très intéressant pour l'identification des pièces. Donc, c'est quelque chose qu'on veut faire demain. Chaque pièce aura probablement un NFT qui lui correspond. Et d'ailleurs, demain, les gens s'échangeront des NFT au lieu de s'échanger les pièces qui resteront dans un coffre, probablement, en partie en tout cas. Et également, LVMH a développé une blockchain qui s'appelle Aura, qui est ouverte, que tout le monde peut utiliser et qu'on utilisera aussi.
Voilà. Merci beaucoup, Gilles-Emmanuel Truta, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à vous, Guillaume et Damien. C'est la fin de ce numéro de PME Radio, mais retrouvez tous nos podcasts sur notre site et sur LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci encore.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.